6-9, Ilana Ferradian.
Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité. Comme tous les matins, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et en direct ce jeudi 21 novembre 2024, 412e jour de guerre en Israël. On fait le point avec les studios Kavita.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Et à Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Ce matin encore, malheureusement, nous allons débuter ce journal par l'annonce de la mort de plusieurs soldats et d'un civil israélien.
Oui, effectivement, le sergent-chef Ethan Ben-Ami, 22 ans, de Jérusalem, combattant de l'unité d'élite Maglan dans la réserve de cette unité, a été tué hier dans un combat au sud Liban. De même, toujours au Liban, dans un autre accrochage, un soldat israélien a été tué. Sa famille a été prévenue, mais pour l'instant, son identité n'a pas encore été rendue publique. Dans le même accrochage, un civil israélien de 71 ans, Zeev Erlich, historien, archéologue de profession de la localité d'Ofran-Samarie, a également été tué.
Et la mort de Zeev Erlich suscite justement de nombreuses interrogations, justement parce qu'a priori, il n'aurait pas dû se trouver au sud Liban.
Oui, au sein de Tsahal, on explique qu'une unité commandée par le commandant de l'état-major de la brigade Golani, le colonel Yoav Yaron, a pénétré hier après-midi au sud Liban dans un site archéologique que Zeev Erlich voulait explorer, justement. Il s'agit de la tombe du prophète Shimon. Des terroristes ont tendu une embuscade à cette unité de Tsahal, au cours de laquelle Zeev Erlich et donc un autre soldat ont été tués. Erlich était en uniforme, armé, et ce, en dépit du fait qu'il n'effectuait pas de service de réserve. Le colonel Yaron a été sérieusement blessé et évacué vers un hôpital israélien.
Et au sein de Tsahal, on affirme que l'entrée de Zeev Erlich au Liban n'était pas du tout conforme aux directives de l'échelon militaire.
Oui, au sein de Tsahal, on parle de carence grave qui fera l'objet d'une enquête et de mesures disciplinaires envers ceux qui ont permis aux chercheurs israéliens d'entrer au Liban pour y effectuer des recherches archéologiques. Ceci étant, en raison des circonstances particulières de cet incident, le commandant en chef du personnel au sein de Tsahal a décidé de reconnaître Zeev Erlich comme soldat de Tsahal tombé au combat. Il faut souligner que Zeev Erlich était par ailleurs officier de l'armée israélienne.
Et pendant ce temps, Daniel, les négociations se poursuivent sur la voie d'un accord de cessez-le-feu.
Oui, en effet, l'émissaire du président américain Joe Biden, Amos Hochstein, est arrivé hier en début de soirée en Israël. Après 2 jours de négociations à Beyrouth, il s'est entretenu avec le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, qui est très proche de Benjamin Netanyahu. Il a confirmé qu'il y avait eu des progrès lors de ses pourparlers avec les Libanais. Selon certaines estimations optimistes, il faut l'avouer, un accord pourrait intervenir d'ici la semaine prochaine. La pierre d'achoppement des pourparlers actuellement demeure toujours l'exigence israélienne de pouvoir agir au sud Liban sans délai et librement en cas de violation par le Hezbollah de l'accord. Côté israélien, on craint en effet que la commission internationale de contrôle, qui doit être composée dans le cadre de cet accord de membres américains et européens, n'entrave la capacité de réaction immédiate de Tsahal au sud-Liban.
Et cependant, il n'est pas certain que cet accord suffise à rassurer les habitants du pays.
Oui, ainsi plusieurs responsables locaux israéliens, en particulier le président du conseil régional de Merob Golan, a affirmé hier que pour que les habitants du Nord puissent revenir chez eux, eh bien, il faudra que Tsahal et l'échelon politique leur garantissent une pleine sécurité. Celle-ci n'est possible que si tous les villages situés dans une zone de sécurité avec environ 5 km au moins de largeur, donc à partir de la frontière israélo-libanaise, soient totalement neutralisés.
Les États-Unis ont de leur côté opposé hier leur veto à une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu.
Oui, les Américains ont décidé d'opposer leur veto car cette résolution ne faisait pas de lien direct entre le cessez-le-feu et la libération des otages. Les 14 autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté en faveur de cette résolution. Danny Danon, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, a remercié les Américains pour leur veto. Nous allons poursuivre notre combat jusqu'à ce que tous les otages puissent rentrer à la maison, a déclaré Danny Danon.
Et puis enfin, hier, l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est exprimé contre l'approche du gouvernement dans le dossier de l'avenir de Gaza.
Oui, Gallant a vivement critiqué en particulier la volonté du gouvernement israélien de confier à des sociétés privées la gestion de l'aide humanitaire qui est acheminée au quotidien dans la bande de Gaza. Selon lui, une telle démarche équivaut à instaurer de facto un gouvernement militaire israélien dans la bande de Gaza. Selon Gallant, cela mobiliserait de très nombreuses forces militaires et mettrait en danger les soldats de Tsahal.
Merci beaucoup, Daniel. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h30 pour la revue de la presse israélienne. La météo de ce jeudi matin. Ce matin, pluie et vent envahissent l'ouest du pays en se dirigeant vers les régions centrales. Des pluies qui se transforment en neige au contact de l'air froid de la Bretagne intérieure à la Basse-Normandie vers le Val-de-Loire et l'Île-de-France. Et dans l'après-midi, progression de cette perturbation pluvio-neigeuse vers les régions du centre-est. De la neige justement attendue à Paris. Il fait frais, seulement 1 degré en Île-de-France. Et puis en Israël, il fait beau, 22 à Jérusalem, 22 degrés, 26 à Tel Aviv, 29 du côté de la mer Morte.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J comme chaque matin. Et c'est la chronique d'Arié Bensemoun, directeur exécutif du groupe Elnet France, le jeudi matin. Bonjour Arié. Cette semaine, vous souhaitiez aborder ces négociations, toujours en cours, pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.
Bonjour Ilana. Si la guerre sur le front nord ne montre aucun signe d'apaisement, en coulisses, les négociations s'intensifient pour parvenir à un accord de cessez-le-feu et mettre un terme au conflit entre Israël et le Hezbollah. Le projet américain actuellement en discussion comporterait 13 points et notamment une trêve de 60 jours. À l'issue de celle-ci, le Hezbollah se retirerait avec ses armes au nord du fleuve Litani, Israël mettrait fin à sa présence militaire dans le sud Liban et l'armée libanaise serait déployée dans les zones frontalières. Cela reviendrait ni plus ni moins qu'à appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui aurait déjà dû être mise en œuvre il y a près de 2 décennies. Bien que les Américains affichent leur optimisme quant à l'aboutissement de ces négociations, les exigences des différentes parties restent nombreuses. Les autorités libanaises, par exemple, exigeraient la libération des terroristes du Hezbollah, faits prisonniers lors des récents affrontements. Mais le principal point de friction serait l'incorporation d'une clause d'autodéfense qui pourrait permettre à Israël de frapper le Hezbollah si ce dernier venait à se réarmer ou à réinvestir le sud Liban. Un cessez-le-feu représenterait un succès notable pour les dernières semaines de l'administration Biden, qui cherche depuis un an à en obtenir un à Gaza sans succès. Il répondrait également aux souhaits personnels de Donald Trump, désireux de s'épargner d'une crise au Moyen-Orient à son retour au pouvoir. Quoi qu'il en soit, restons prudents, ces derniers mois nous ont montré à maintes reprises la difficulté de conclure ces négociations. Les prochains jours seront donc décisifs.
Et pourtant, Arié, le groupe terroriste aurait tout intérêt à accepter ce cessez-le-feu.
Absolument, Ilana. Selon le New York Times, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, aurait personnellement exigé du Hezbollah qu'il conclue ce cessez-le-feu. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la stratégie régionale de l'Iran qui se trouve fragilisée. Et Téhéran cherche à sauver ce qui peut encore l'être et calmer le jeu avant la prise de fonction du président Trump. La précipitation du Hamas a déclenché les hostilités le 7 octobre 2023 et a entraîné tout, entre guillemets, l'axe de résistance, et plus particulièrement le Hezbollah, dans une guerre que l'Iran n'était pas encore prêt à mener. Depuis des années, le Hezbollah se préparait minutieusement à lancer une offensive de grande envergure dans le nord d'Israël, bien plus importante d'ailleurs que celle menée par le Hamas au sud. Ils avaient construit un vaste réseau militaire à la frontière avec des tunnels, des positions fortifiées, des caches d'armes, etc. Mais le 7 octobre a eu raison des plans du Hezbollah et a contraint Israël à renforcer dans l'urgence sa frontière nord, privant ainsi le Hezbollah de l'effet de surprise essentiel à son plan d'invasion. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses erreurs d'analyse ont été également commises qui ont plongé l'organisation dans la pire crise de son histoire. Qu'il s'agisse de l'entêtement à soutenir le Hamas, de leur idée qu'Israël n'oserait pas les frapper à Beyrouth par crainte de représailles sur Tel Aviv, ou celle que Tsahal ne pénétrerait pas en territoire libanais. Après presque un an de conflit de basse intensité, il n'aura fallu que quelques semaines à Israël pour affaiblir considérablement le Hezbollah. L'intensification de la guerre à partir de septembre 2024 a mis en lumière l'incapacité du Hezbollah à protéger ses dirigeants et ses infrastructures stratégiques, ainsi que leur infiltration par le renseignement israélien. Si le Hezbollah résiste encore militairement grâce à la décentralisation de sa chaîne de commandement, sa structure, elle, est en lambeaux. Ils ont besoin de temps pour se réorganiser, mais pour cela, ils ont besoin d'un cessez-le-feu.
Arié, qu'en est-il pour terminer des objectifs d'Israël ?
Eh bien, Israël a deux objectifs principaux dans cette guerre. Affaiblir le Hezbollah et sécuriser la frontière avec le Liban pour permettre le retour des 60 000 déplacés du nord. Aujourd'hui, le Hezbollah est décapité. Nasrallah, tout son état-major militaire et plus de 3 000 terroristes sont morts. Leurs capacités opérationnelles ont été sérieusement affaiblies. Près de 70 000 armes, missiles, roquettes ont été saisies. Signalons au passage que plus de 60% sont d'origine russe. Leur morale est désormais au plus bas. Ce qui a été accompli grâce aux renseignements et aux campagnes de bombardement est tout simplement prodigieux. un cessez-le-feu s'il était respecté et la résolution 1701 appliquée avec des garanties internationales pourrait permettre de sécuriser le nord d'Israël. Mais la menace que représente le Hezbollah ne s'apaisera que temporairement. Tôt ou tard, s'ils persistent dans leur projet d'annihilation d'Israël, le Hezbollah, comme leurs parrains iraniens, devront subir le même sort que le Hamas. Affaire à suivre donc à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Arié.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J, comme tous les matins et le jeudi. C'est votre chronique Israël et environnement avec Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François.
Bonjour Ilana.
Alors on est actuellement dans une période un petit peu morose hein, quand même, on peut le dire Jean-François. Mais heureusement, il y a des motifs de réjouissance, il y a des avancées exceptionnelles, des startups israéliennes. Et il y en a qui sont même au sommet de leur développement.
Oui Ilana, il y a la Startup Nation, des startups de cette nation qu'est Israël. Et certaines sont les stars des startups. Et là, écoutez bien, parce que ce n'est pas anodin, EcoWave Power vient de recevoir le permis final du corps des ingénieurs de l'armée américaine pour le premier projet américain d'énergie houlomotrice au port de Los Angeles.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est EcoWave Power et en quoi consiste ce projet ?
EcoWave Power, qui est dirigé par Inna Braverman, est une entreprise leader dans le domaine de l'énergie houlomotrice terrestre qui révolutionne l'énergie propre grâce à sa technologie brevetée, intelligente et rentable, qui convertit l'énergie des vagues de l'océan et de la mer en électricité durable.
Quel est l'ADN finalement de cette start-up ?
Elle est dédiée à la lutte contre le changement climatique. Elle exploite le premier système d'énergie houlomotrice connecté au réseau en Israël, qui est cofinancé par EDF Renewable Israël, alors EDF Cocorico, et le ministère israélien de l'énergie qui a reconnu la technologie comme une technologie pionnière. L'entreprise a reçu le soutien d'institutions prestigieuses telles que le Fonds de développement régional de l'Union européenne, Innovate UK et le programme Horizon 2020, et a été récompensée par le Global Climate Action Award des Nations Unies. Hein. Tout ça, c'est israélien. Tout ça, c'est le pays ONI. Mais il y a toutes ces récompenses pour cette EcoWave Power, qui est une entreprise sioniste, drapeau israélien, qui ne se cache pas son identité derrière son petit doigt.
Eh bien, c'est tant mieux. Une question se pose malgré tout. Est-ce que les attaques du 7 octobre 2023 en Israël, et au nord d'ailleurs, au sud et au nord d'Israël, est-ce qu'elles ont menacé ces attaques, les objectifs du forum ?
Alors regardez, on est sur la présence partout d'EcoWave Power. Et non, malgré tout, ça passe. C'est-à-dire que malgré les attaques du 7 octobre, tout le monde reconnaît à Israël le droit de développer cette action. Je pense même qu'il y aura des démonstrations dans des tas d'endroits dans le monde, y compris aux Nations Unies, pour expliquer cette étape importante dans le développement du projet d'EcoWave Power, qui devrait devenir la première installation terrestre d'énergie houlomotrice aux États-Unis. Le permis qui a été délivré pour les projets pilotes de production d'énergie renouvelable à base d'eau autorise EcoWave Power à installer 8 flotteurs d'énergie houlomotrice sur les pieux d'une structure de quai en béton existante déjà du côté de la jetée municipale 1 de port de Los Angeles.
Alors comment l'énergie sera-t-elle convertie pour être utilisée, Jean-François ?
Le système comprendra également une unité de conversion d'énergie composée de 2 conteneurs maritimes de 20 pieds qui seront placés sur le pont du quai et reliés au flotteur. L'unité de conversion étant déjà expédiée, elle est déjà sur site. EcoWave Power prévoit d'achever son installation d'ici la fin du premier trimestre 2025. C'est demain matin.
Ah oui.
C'est dans très peu de temps.
Et on suppose que les États-Unis, dans le port de Los Angeles, ne vont pas s'arrêter à 8 flotteurs. Est-ce qu'ils ont mesuré le potentiel de cette énergie ?
Le Laboratoire national des énergies renouvelables du département américain de l'énergie estime que l'énergie des vagues a le potentiel de générer plus de 1400 terawatt-heure par an, soit suffisamment, écoutez bien Ilana, pour alimenter environ 130 millions de foyers, je dis bien 130 millions de foyers. Avec ce projet, EcoWave Power fait progresser la commercialisation de l'énergie des vagues en tant que source d'énergie renouvelable, fiable et propre, renforçant ainsi sa position de leader du secteur.
Merci Jean-François, on vous retrouve chaque semaine sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Hélène Ferradian. Radio
J. 7h15, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 412e jour de guerre et la mort d'un nouveau soldat de Tsahal, mais aussi d'un civil. Tous deux tombés au combat sur le front nord au Liban. Anosh Erlich, âgé de 71 ans, a été tué hier. Et oui, 71 ans. Et lui aussi était au Liban Sud. En fait, c'était un historien, un archéologue. Il avait rejoint une activité opérationnelle d'une force de la brigade Golani en tant que civil, sans autorisation formelle, mais avec la permission du commandant de brigade. Tsahal a qualifié l'incident d'inhabituel et grave et a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. Également annoncé la mort du sergent de première classe Ethan Benami, originaire de Jérusalem. Il s'agit d'un réserviste de 22 ans. Il était membre des commandos Maglan. Tout à l'heure, les sirènes d'alerte ont retenti en Galilée occidentale après l'identification d'une cible aérienne suspecte. L'engin a traversé le territoire israélien depuis le Liban. C'est dans ce contexte que l'envoyé spécial américain pour le Liban est arrivé hier soir en Israël. L'objectif d'Amos Hochstein, un cessez-le-feu sur le front nord. Il doit rencontrer aujourd'hui notamment le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Sur le front sud, près de 7 tonnes d'aide humanitaire livrées hier dans la bande de Gaza. Aide envoyée sur place via l'armée de l'air jordanienne. Ce sont des fournitures d'hygiène, du lait maternisé, de la nourriture et des médicaments qui ont été livrés. L'enjeu, c'est que les cargaisons ne soient pas pillées. Le programme alimentaire mondial doit les distribuer à la population gazaoui. Pas de résolution pour un cessez-le-feu immédiat sans libération des otages. Les États-Unis ont donc posé leur veto au texte soumis hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danone, c'était une tentative honteuse de l'ONU d'abandonner les otages qui a été évitée. Nous continuerons la lutte jusqu'à ce que tout le monde soit rentré, a-t-il dit.
Merci beaucoup Eva. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 8h, 7h30, la revue de la presse israélienne.
Le 6-9, Hélène Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. Excellent choix d'écoute ce matin à notre antenne. Dans quelques instants, notre invité Nicolas Benoïch, avocat de l'OJE, l'Organisation juive européenne, sur cette affaire dont on avait déjà parlé, mais c'est important, un adolescent juif de 15 ans qui avait été violenté il y a quelques semaines à Levallois. Ses agresseurs ont été jugés et condamnés. On va en parler avec Nicolas. Vous restez avec nous, bien entendu. D'autres rendez-vous. Le billet d'humour d'Annabelle Nakache en studio à partir de 7h40 et puis 7h45, l'invité de Christophe Barbier. Christophe qui sera avec nous ce matin pour parler de l'actualité politique en France. Son invité sera le député du Haut-Rhin, Bruno Fuchs. Et puis j'en profite pour vous donner un autre rendez-vous un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 8h30. Nous serons avec le professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, Yanis Roder, pour cette tribune publiée dans le journal Le Point, dans le journal Le Monde. Parler de génocide quand il s'agit de guerre, c'est s'interdire de comprendre les événements. Voilà ce que dit donc Yanis Roder, qui donc dénonce l'emploi du mot génocide aujourd'hui dans les milieux intellectuels et notamment dans les milieux universitaires. On en parlera tout à l'heure à partir de 8h30.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À tout à l'heure.
Radio J.
Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Je n'ai pas dit mes derniers mots. Un seul en scène de Bernard Bitton. Un spectacle percutant, engagé et émouvant. Bernard Bitan met des mots sur les mots du peuple juif.
Bernard Bitan revient avec son spectacle à l'Écuge, lundi 18 et jeudi 21 novembre à 20h30.
Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10. Réservation sur écuge.fr.
Écuge.fr.
Je n'ai pas dit mes derniers mots de Bernard Bitan.
Spectacle d'actualité et solidaire d'Israël, en partenariat avec Radio J.
Le 6-9. Radio J.
Radio J.
Votre volonté, c'était de casser du juif. 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis pour l'agression d'un adolescent à Levallois, l'un des agresseurs d'un garçon de 15 ans qui avait été violemment agressé effectivement le 13 octobre à Levallois, a été jugé en comparution immédiate il y a quelques semaines, il y a un mois justement. Et pour en parler, nous sommes avec l'avocat de l'Organisation juive européenne, Nicolas Bédouaïch. Bonjour.
Bonjour Ilana.
Merci beaucoup d'être avec nous, Nicolas, ce matin. Important de vous entendre puisque vous avez effectivement plaidé dans cette affaire. Vous représentiez l'Organisation juive européenne et Laurence, je crois, représentait...
Laurence Lévy, oui. Ma consœur Laurence Lévy représentait la famille du jeune victime.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler d'abord peut-être les faits ?
Oui, alors tout se passe le 13 octobre vers 19h et le jeune juif qui va être victime de cette agression complètement barbare rentre dans le métro de Levallois avec sa kippa sur la tête. Il croise à ce moment-là les deux agresseurs antisémites dans le métro. Il va retirer sa kippa immédiatement quand il sent les regards appuyés sur lui de ces deux agresseurs. Mais malheureusement, ça sera trop tard.
Ouais.
Et là, il va subir. Il va d'abord être invectivé. Hey, le juif, viens ici, on doit te parler. Là, il va tenter de s'enfuir. Il va être attrapé, balayé au sol et battu comme un animal. Au sol, ce qui va occasionner plusieurs jours d'ITT. Et vous avez vu les images de lui avec la lèvre
la bouche en sang, c'est ça.
Gonflé, le visage tuméfié.
Seulement 15 ans quand même. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'un de ses agresseurs est un mineur aussi.
Tout à fait, 16 ans. Il a été jugé hier détenu par le tribunal pour enfants de Nanterre. Et la procureure a requis contre ce mineur la peine de 8 mois ferme et 6 mois avec sursis.
Est-ce que vous êtes satisfait justement de ces réquisitions ?
Alors, à l'OJE, effectivement, on est satisfait quand il y a des réquisitions de placement en détention provisoire et des réquisitions de mandat de dépôt contre les agresseurs antisémites. Bien évidemment, ça témoigne d'une prise de conscience des magistrats de la gravité de la situation des Juifs en France aujourd'hui. Ce que nous reprochons, si vous voulez, à la justice, c'est de ne pas sanctionner assez sévèrement en amont, c'est-à-dire ne pas sanctionner ceux qui ont mis des cibles dans le dos justement de ces jeunes juifs qui se font agresser, de ces malheureusement ces jeunes juifs, cette jeune juive qui s'est fait violer à Courbevoie, et on a encore le souvenir de cette information dramatique, 12 ans violés par ce juif. Donc tous ceux qui ont mis des cibles dans leur dos, et je parle du personnel politique d'extrême gauche et de la LFI bien évidemment, je parle aussi...
Ils ont une responsabilité selon vous.
Mais c'est évident, c'est évident. Ces agressions n'ont lieu que parce qu'effectivement il y a au départ et en amont, une cible dans le dos qui est mise sur le dos des Juifs par la LFI et par les réseaux sociaux.
Et on parlait du fait que un des agresseurs était un mineur. Ça aussi, c'est un fait intéressant, puisque finalement, on se rend compte que la violence aussi intervient de plus en plus jeune. Et depuis le 7 octobre, ça a été en fait un catalyseur de haine pour tous ces jeunes, ces mineurs qui ne comprennent pas vraiment la situation au Proche-Orient et qui s'en prennent gratuitement comme ça.
C'est l'expression d'un antisémitisme dans lequel ils baignent. Et le 7 octobre, en fait, a fait élément déclencheur pour faire passer de cet antisémitisme familial un petit peu culturel et local, en faire quelque chose qui s'exprime par la voie de la violence, du viol, du meurtre et de l'insulte et de l'invective.
Et alors, comment ils se sont défendus,
ces agresseurs ? C'est très intéressant. Donc, ils ont eu 11 jours pour préparer leur défense. C'est-à-dire que, et je rends hommage au travail de la police, il a fallu 11 jours pour les identifier grâce aux caméras de vidéosurveillance du métro. Et une fois qu'ils ont été identifiés, ils ont été interpellés. Mais voilà, ils ont eu ces 11 jours de préparation. Et donc, ils vont, à ce moment-là, construire une défense qui va consister à dire que le jeune juif victime de 15 ans les aurait filmés, ce qui aurait provoqué leur colère et donc leur envie, effectivement, de voir ce film d'eux effacé. Bon, bien évidemment, ça résiste nullement à l'examen du dossier, mais surtout, ils vont reconnaître, quand ils vont comparaître devant leurs tribunaux respectifs, qu'effectivement, ils ont menti sur ce point. Mais ne reconnaîtront jamais le motif antisémite de cette agression barbare, tout simplement en disant qu'ils n'ont jamais vu la kippa sur la tête.
Alors qu'ils ont dit sale juif, ils l'ont insulté.
Oh, ça là aussi, ils vont le contester, bien évidemment. Mais les magistrats qui ont eu à analyser le dossier, bien évidemment, voient bien le jeune rentrer avec sa kippa dans le métro. Et au moment de l'agression, il n'a plus sa kippa sur la tête. Donc on sait qu'ils l'ont croisé et qu'il avait la kippa sur la tête. Ça fait absolument aucun doute. Et d'ailleurs, ça, en a fait, ça n'a pas fait de doute pour les magistrats qui ont condamné à 18 mois de prison ferme. Enfin, vraiment, c'est important de le dire. Ça a été au-delà des réquisitions du parquet de Nanterre.
Oui.
18 mois de prison ferme, l'agresseur de à peine 18 ans. Donc, alors, c'est une peine exemplaire et on est très
alors,
satisfait.
Très rapidement, au moins d'une minute, comment va aujourd'hui la victime, ce jeune juif de 15 ans ?
Et à 15 ans, on reçoit des coups parce qu'on est juif. C'est quelque chose dont on se remet, j'espère, dont on se remet vite, mais malheureusement, c'est quelque chose qui marque psychologiquement et qui marque durablement, d'une part, ce sentiment d'insécurité, mais j'ai envie de vous dire qui est presque un petit peu commun à tout le monde en ce moment, dès lors qu'on prend les transports en commun, dès lors qu'on se promène dans la rue, mais surtout ce sentiment d'insécurité parce que juif, parce qu'on nous a mis une cible dans le dos en qualité de juif.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Belloy, avocat de l'OJE. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci.
Radio J. Zoom Israël. Pascal Sunshine.
Radio J. Et on revient à l'actualité en Israël avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, alors qu'on semble s'avancer vers un règlement pour le Front Nord, quelle est la stratégie d'Israël pour la bande de Gaza ?
D'abord, il faut expliquer la situation sur le terrain. Ça fait maintenant plus de 13 mois que Tsahal est présent dans la bande de Gaza. Les forces de sécurité israéliennes tiennent la frontière sud du territoire côtier avec l'Égypte. Au centre du territoire, le couloir de Netzarim isole totalement le nord du sud de la bande de Gaza. Cet axe, d'abord d'une largeur de 500 mètres, est devenu une véritable zone tampon de près de 8 km de profondeur, de l'est à l'ouest de l'enclave côtière. Au nord, une autre zone tampon coupe le nord du territoire de la ville de Gaza. Et c'est dans cette partie nord, dans le triangle Jabalia, Betlaïa, Betranoun, que se déroulent depuis plus d'un mois l'essentiel des opérations de Tsahal pour empêcher le Hamas d'en reprendre le contrôle. 1300 terroristes ont été éliminés depuis la fin septembre et il en resterait encore entre 100 et 200 selon les estimations de Tsahal. Car le Hamas, même très affaibli, continue sans relâche son recrutement de nouveaux membres. L'organisation terroriste parvient aussi toujours à contrôler et à détourner une large partie de l'aide humanitaire qui entre dans la bande de Gaza, ce qui lui permet évidemment de maintenir son emprise sur la population. Et c'est le problème principal qui se pose à Israël. Le cabinet de sécurité doit d'ailleurs se réunir aujourd'hui pour discuter de nouvelles options concernant l'organisation de l'acheminement et de la distribution de l'aide humanitaire à la population de Gaza. Un des plans à l'étude, c'est de confier cette mission à des sociétés privées, mais qui seraient sécurisées par Tsahal. Mais certains, comme l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, y voient un projet déguisé d'instaurer un régime d'occupation militaire de la bande de Gaza, en chargeant Tsahal de missions qui dépassent sa seule lutte contre le Hamas et qui l'oblige à accomplir aussi un travail d'administration civile, le gouvernement modifierait les objectifs initiaux de la guerre tels qu'ils avaient été définis après le 7 octobre. Matériellement, c'est réalisable. Tsahal l'a déjà fait durant 27 ans en Judée-Samarie et à Gaza. Mais cela signifie solliciter beaucoup plus de ressources, maintenir une présence permanente avec les dangers que cela représente pour les soldats, sans parler des répercussions diplomatiques si Israël se retrouve en situation de force d'occupation dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou assure qu'après la guerre, il n'y aura plus de présence du Hamas à Gaza, mais le Premier ministre israélien n'évoque toujours pas d'alternative politique pour l'administration du territoire côtier. Dans l'aile droite de sa coalition, les ministres nationalistes Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich refusent tout accord avec le Hamas pour la libération des otages qui obligerait Israël à cesser la guerre et à se retirer de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou ne peut donc pas aller dans cette direction sans risquer de perdre sa coalition. Le Premier ministre israélien préfère donc temporiser en attendant l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche dans 2 mois, dans l'espoir que la nouvelle administration américaine sera plus conciliante et lèvera notamment les barrages sur les livraisons d'armes. Pour Gaza, la stratégie d'Israël, c'est donc celle de l'attente, mais avec un risque encore accru pour les 101 otages prisonniers du Hamas depuis 411 jours.
Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem, avec qui nous faisons le point de l'actualité chaque matin dès 6h. Pascal, on vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée, à partir de 8h. Ne bougez pas, dans quelques instants, on va rester en Israël justement, pour la revue de la presse israélienne et notre correspondant Daniel Haïk. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
7h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Jeudi 21 novembre 2024, et ravi de vous retrouver ce matin, comme chaque matin, 412e jour de guerre en Israël, 412 jours de captivité, on l'a dit, pour 101 otages à Gaza.
Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, ce matin encore, les manchettes des quotidiens et les pages d'ouverture des sites d'information sont douloureuses avec la perte de plusieurs nouveaux soldats.
Oui, effectivement, et parmi ces manchettes, celle du Israel Hayom est sans doute la plus émouvante. Elle nous montre un cercueil recouvert du drapeau israélien et porté par des soldats durant des obsèques militaires, et au-dessus un titre, remplir le vide. Et il s'agit du vide laissé par ces courageux soldats qui ont donné leur vie pour la défense d'Israël. Le Israel Hayom a décidé de leur rendre hommage ce matin, alors qu'hier, le seuil des 800 soldats tombés au combat depuis le début de la guerre a été franchi. Notre cœur est brisé, explique le Israel Hayom pour commenter cette terrible donnée, cette image et cette photo. 800, c'est le chiffre qui barre également les secondes et troisième pages du journal, qui nous montre également une autre photo très poignante, celle d'Adi Galador, qui est venu avant les obsèques de son mari, le sergent-chef Omer Galador, hier au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem, montrer à son jeune fils Neta, 3 ans, la tombe où son papa va résider pour l'éternité.
Et puis Karni Eldad, dans le Israel Hayom, rapproche le sacrifice des soldats à celui qui est mentionné dans la paracha de cette semaine, le sacrifice d'Isaac.
Oui, elle écrit sous une forme poétique. Ton mari, ton unique, celui que tu as aimé, s'en est allé pour défendre la terre qui lui a été promise, à lui, à toi, à notre descendance. Et de même que ce sacrifice d'Isaac nous est insupportable, celui de ton être cher nous rappelle que c'est pour cela aussi que tu l'aimes, parce qu'il y a en lui, en cet homme, quelque chose de plus élevé que l'individuel. Et dans le Yediot Acharonot, Ariela Ringel-Hoffmann, elle aussi revient sur ces 800 soldats qui sont tombés au combat, parmi lesquels le sergent-chef Dror Ren. Elle récite une partie du Kaddish à la mémoire de ses soldats et elle répète en guise d'espoir ce verset que tout le monde connaît, Ose Shalom Bimrumav, que le Tout-Puissant qui fait la paix en haut instaure la paix sur nous et sur tout Israël.
Et ce matin, dans le Yediot Aharonot et dans le Israel Hayom, il y a ces photos des soldats tombés hier et avant-hier au combat.
Oui, il s'agit du sergent-chef Roy Sasson, 21 ans, de Mevaseret Sion, qui était, dit-on, un ange avec le plus beau sourire qui soit, et qui est tombé dans un combat à Jebalia, dans le nord de la bande de Gaza. Et il s'agit également du sergent-chef Ethan Ben-Ami, 22 ans, de Jérusalem, combattant dans l'unité de réserviste de l'unité d'élite Maglan. Il a été tué au combat au Liban lorsqu'un bâtiment piégé s'est effondré sur lui. Mais la photo la plus incroyable, c'est celle qui figure en évidence ce matin en première page des grands quotidiens israéliens, celle de Zeev Erlich, surnommé Jabo. Pourquoi incroyable? Eh bien parce que Jabo avait 71 ans. Il était civil, historien et archéologue, et qu'il n'aurait pas dû mourir au Liban puisqu'il n'y était pas entré apparemment pour combattre, mais pour découvrir un site historique sur place au sud de Liban. C'est la manchette du Yediot Aharonot de ce matin. Jabo a rejoint une unité de Golani et a été tué dans un accrochage. Jabo était en effet un chercheur renommé en Israël, écrit le Yediot Aharonot. Il connaissait l'histoire de chacun, de chaque recoin de la terre d'Israël, et il est entré au Liban apparemment de manière illégale avec le feu vert d'un officier supérieur de Tzal, parce qu'il voulait découvrir apparemment là aussi la tombe de Shimon, le prophète, qui est située au sud Liban. Au sein de Tzal, on enquête actuellement pour déterminer comment Jabo a pu entrer au Liban de la sorte, et l'on parle de carence grave. Il faut préciser que le porte-parole de Tzal a rendu public il y a quelques instants le nom du soldat tué aux côtés de Zeev Erlich hier dans cet accrochage. Il s'agit du sergent Gour Keati, 20 ans, de Nirvanim, soldat du bataillon 13 de la brigade Golani. Que leur souvenir soit béni.
Ce matin encore, les quotidiens israéliens se demandent par ailleurs si l'on est proche d'un accord ou pas dans le Nord.
Oui, le Yediot Aharonot nous détaille en première page les points de litige qui demeurent sur la voie d'un accord et qui précise qu'Amos Hochstein, émissaire du président Biden, est aujourd'hui en Israël pour y rencontrer le Premier ministre et le ministre de la Défense. La principale pierre d'achoppement, on le sait, dans les pourparlers, c'est encore et toujours la question de la liberté d'action d'Israël en cas de violation de l'accord par le Hezbollah. Le second point en litige se rapporte aux pays qui participeront à une force d'observation et de contrôle, justement au sud du Liban, pour empêcher une telle violation.
Et dans les quotidiens, les avis sont partagés sur la question justement d'un accord.
Oui, ainsi Naveh Dromi dans le Yediot Aharonot, dans un éditorial, estime que l'heure n'est pas encore à un tel accord, car le seul moyen, écrit-elle, d'instaurer un nouveau Moyen-Orient, c'est de le débarrasser totalement du terrorisme, et parce que nous ne pouvons pas compter sur des forces telles que la FINUL, car s'en servir comme protecteur, c'est surtout, c'est comme si nous mettions, écrit-elle, comme agent de sécurité au Festival Nova les terroristes de la Nourba. Et voilà pourquoi, lorsque l'on voit les choses de manière réaliste, on comprend que l'on n'est pas encore à la veille d'un arrangement, écrit Naveh Dromi. Dans le Israelium, ça Rita Avitad Cohen, elle, insiste sur les estimations israéliennes qui affirment, envers et contre tout, qu'un accord est tout de même possible.
Le Maariv mentionne de son côté, dans l'un de ses principaux titres ce matin, une estimation très pessimiste sur l'avenir du Hezbollah.
Oui, selon le Maariv, qui cite des experts libanais, le Hezbollah est aujourd'hui plus isolé que jamais, y compris au sein de la direction du Liban. Même des proches du mouvement terroriste chiite au Liban reconnaissent qu'il n'y aura pas d'autre alternative que de démilitariser le Hezbollah et de ne le maintenir que dans sa forme politique. Ces Libanais reconnaissent que le Hezbollah est actuellement sous la pression, en particulier des États-Unis, à la suite des opérations israéliennes de ces derniers mois.
Enfin, pour terminer, ce matin, dans le site N12 de la 12e chaîne israélienne, une enquête sur la dégradation de l'état de santé mentale des Israéliens.
Et oui, effectivement, la guerre, un an de guerre commence à avoir des effets négatifs. Selon les données officielles du ministère de la Santé, on constate une augmentation sensible de la consommation par les Israéliens de médicaments pour restaurer la santé mentale, leur santé mentale. Et cette augmentation est plus importante encore dans la consommation de médicaments antidépressifs. Au ministère de la Santé, on précise que le phénomène devrait prendre de l'ampleur après la guerre. Et l'on se prépare donc à une sorte de tsunami de post-traumatisme à l'échelon national.
Merci beaucoup Daniel, notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, qu'on retrouve chaque matin à 7h et 7h30 sur Radio J.
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
keren-hayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et vous nous rejoignez sur Radio J, vous êtes toujours avec nous comme chaque matin. Plaisir de vous retrouver dans quelques instants. L'humour avec Annabelle Nakache qui s'est encore déguisée ce matin. Mais en quoi? Je ne vous dis rien. Suspense, branchez-vous sur notre chaîne YouTube Radio J pour le découvrir. Et puis juste après, Christophe Barbier et son invité ce matin, Bruno Fuchs, le député Bruno Fuchs notamment. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et d'ailleurs à 8h30, j'en profite pour vous donner notre invité. Ce sera le professeur d'histoire-géographie Yadis Roder qui publie une tribune dans Le Monde. Parler de génocide quand il s'agit de guerre, c'est s'interdire de comprendre les événements, notamment au sujet du conflit israélo-palestinien. C'est ce qu'il écrit avec le juriste Yann Jurovics. Il répond donc aux détracteurs de l'État d'Israël qui l'accusent de génocide. Pourquoi c'est un non-sens juridique? On en parlera avec Yannis tout à l'heure à 8h30.
Radio J.
14h-15h. Le Grand Journal.
Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure d'information et de décryptage en direct sur les sujets qui vous concernent. Le Grand Journal, 14h-15h et c'est seulement sur Radio J.
Radio J.
Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Avec
Avec les audioprothésistes Unison, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui.
Et oui, jusqu'à 500 euros sur les appareillages auditifs les plus performants du marché.
Unison vous propose les appareils auditifs les moins chers de France, dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France.
UNI2SON.com.
Unison.com.
Unison.com.
La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin. Bonjour, merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, aujourd'hui, nous accueillons, je vous en prie, regardez-nous sur YouTube. Nous accueillons la députée de Paris, Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau.
Bonjour. Bonjour, oui c'est vrai que vous pouvez me qualifier de députée Europe Écologie Les Verts, ou alors vous pouvez modestement me qualifier de porte-parole de notre planète Mère Nature, ou encore défenseuse de la biodiversité, des ours polaires et des pandas roux, ou encore combattante effrénée de la lutte féministe et engagée contre la masculinité toxique qui pollue nos sociétés et nos barbecues, et évidemment militante contre le réchauffement climatique.
Bon, pour le coup aujourd'hui on a un refroidissement climatique.
Ah oui, mais ça c'est dû au dérèglement climatique. Vous trouvez ça normal, vous, que fin novembre, on est froid?
Bah, un peu, oui. Un peu.
Oui, bon d'accord, c'est vrai, mais on assiste à des phénomènes quand même qui bouleversent notre écosystème. Les nappes phréatiques qui inondent nos villes qu'on n'arrive plus à maîtriser à cause de la fonte des glaces, les absurdités qui inondent notre société et qu'on n'arrive plus à maîtriser à cause de la fonte des cerveaux. On a des espèces qu'on n'avait jamais vues qui nous envahissent, un requin blanc au large de nos côtes, des frelons asiatiques, des moustiques tigres, et on a même constaté l'arrivée de blaireaux en masse à l'Assemblée nationale.
Alors en parlant d'Assemblée, vous en avez aidé quelques-uns à s'installer en vous alliant au Nouveau Front Populaire.
Ah, écoutez, tous les moyens sont bons pour faire barrage à des gens qui sont racistes et qui stigmatisent des populations à des fins électorales, comme l'extrême gauche. Oh pardon. Oh boulette. Oh, comme l'extrême droite, je voulais dire. Oh, le lapsus.
Bah, c'est vrai que c'est à s'y méprendre. Est-ce que vous doutez du Nouveau Front Populaire?
Non, j'ai confiance. Bon non, bah c'est vrai que c'est comme pour les trains quoi. Attention, un extrême peut en cacher un autre. Du coup, c'est un front pas vraiment populaire, mais un front populiste, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon, pour être honnête, des fois quand je suis à l'Assemblée et que je les entends parler, je me sens comme une misérable. On est tombé par terre. C'est la faute au Nouveau Front Populaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. La tête dans le guidon, c'est la faute à Mélenchon. On est tombé dans la panneau des gens qui parlent trop. On aurait dû rester entre socialo et écolo.
Alors vous êtes beaucoup invitée en tout cas, Sandrine, sur les plateaux ces derniers temps. On a même l'impression que c'est vous qui invitez les journalistes. Pourquoi cette exposition?
Mais je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je défends juste les intérêts de la société. Bon d'accord, c'est vrai qu'on me voit beaucoup parce que je veux pas laisser la place à la géante verte.
La géante verte?
Bah oui, enfin, Marine Tondelier, de qui vous croyez que je parle? Elle est là à me narguer. Oh oh oh, géante verte. Ah non, mais avant les européennes, personne ne savait qui c'était. Puis elle a sorti sa veste de chez Jardiland sur les plateaux. Et là, Marine Tondelier par-ci, Marine Tondelier par-là, les écolos, c'est Rousseau point barre.
Ah, vous ne voulez pas partager d'affiche?
Ah bah non, écoutez, c'est pas ça. C'est pas une question d'égo mal placé, mais je trouve que parler moins, ça fait des économies de CO2 et ça fait du bien à la planète.
Et pourtant, vous parlez beaucoup, vous.
Oui, mais moi, quand je parle, je brasse du vent et ça fait de l'énergie éolienne. Bon, c'est vrai, rien à foutre de la planète. Je veux pas qu'elle me pique la vedette et puis c'est tout.
Bon, qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre le réchauffement climatique?
Ah bah écoutez, il faut revoir notre façon de nous déplacer, prendre les transports en commun.
Ouais, mais là, ils vont être en grève et en plus pendant les fêtes. Vous pensez qu'ils ont raison?
Ah bah oui, ils ont raison. Ils veulent pas de concurrence et ils veulent une revalorisation de leur salaire comme tous les ans, quoi.
Bon, en même temps, la concurrence pourrait peut-être jouer sur les prix car les usagers trouvent les billets de plus en plus chers.
Bah oui, c'est vrai qu'ils exagèrent. Mais en même temps, qui dit grève dit vous restez chez vous, donc pas de pollution et donc c'est écolo-friendly.
Vous avez été dans une polémique par ailleurs suite à vos propos sur la jeune iranienne qui s'est montrée nue pour protester contre le port du voile.
Ah oui, bah elle a été d'un grand courage, comme toutes les femmes qui se battent pour avoir le droit ou non de porter un voile. Et je me suis fait traiter de conne pour ça. Chaque femme dispose du droit ou non de porter un vêtement.
Mais même quand ce vêtement est le fruit de la volonté de la masculinité toxique, comme vous dites. Hein.
Non mais écoutez, en ce moment, si des femmes veulent porter le voile parce qu'il fait froid ou parce qu'elles trouvent ça joli, on va pas leur enlever ce droit parce que des hommes les auraient peut-être obligés. Enfin, je veux... Bon oui, je sais, mon raisonnement tient pas du tout la route, mais toute ma stratégie politique est basée là-dessus. Je dis tout et son contraire. C'est comme quand je dis que je suis contre le patronat et que je veux qu'on crée des emplois. J'ai pas la réponse. Comme quand je dis qu'il faut soutenir les agriculteurs, mais que je suis contre les pesticides, les méga-bassines et les aliments qui sont pas bio, j'ai pas la réponse. Comme quand je dis qu'il faut prendre les transports en commun et que je soutiens les grévistes, j'ai pas la réponse. Et ça mérite pas qu'on me traite de conne, d'opportuniste ou de démago. Oui, peut-être, mais de conne, non.
Bon, pour finir, qu'est-ce que vous pensez de l'antisémitisme ?
Écoutez, je pense que ce qui se passe à Gaza est très grave et doit être dénoncé. Mais en aucun cas, la violence ne doit régner dans notre société. En aucun cas, un juif en France ne doit être violenté alors que les Gazaouis sont massacrés tous les jours. Ce qui se passe à Gaza est intolérable et reste à Gaza. Alors arrêtez d'être antisémite, s'il vous plaît, d'accord ?
Eh bien, on a notre réponse. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau.
Oh, c'est dommage, c'est déjà fini. J'aurais pu vous donner mon avis sur le vilain Trump ou vous dire que si Pierre Palmade avait pris les transports en commun, eh ben, il n'aurait pas eu de problème, mais je reviendrai.
Voilà, merci beaucoup, Sandrine. En attendant, vous pouvez retrouver Annabelle Chaud sur les réseaux sociaux. Bravo, Annabelle. Merci, on vous retrouve chaque semaine sur Radio G. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin.
Les grands débats commencent sur Radio G.
Sur Radio G.
Bruno Fuchs, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez le Haut-Rhin, la sixième circonscription, c'est ça ?
Exactement.
Pour le MoDem, mais vous êtes surtout président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et à ce titre, je voudrais votre avis sur le groupe d'amitié France-Palestine qui s'est créé hier, alors que la Palestine n'est pas un État, qu'il n'est pas membre de l'ONU, qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre la France et cet État, évidemment, et puis que la vie parlementaire dans la Palestine, notamment à Gaza où le Hamas domine, bah, la vie parlementaire est réduite à néant. Tout ça, c'est les règles pour faire un groupe d'amitié. Alors, il n'est pas valable celui-là ?
Alors, un groupe d'amitié, c'est, ça n'a pas d'action tous les jours. Donc, on est sur un plan, notamment avec la Palestine, qui est un plan plutôt symbolique. Nous, parlementaires, enfin, c'est la réflexion, je pense, du bureau de l'Assemblée, et travaille sur le jour d'après, sur la suite. Si on veut construire une paix et une sécurité pour Israël et une souveraineté aussi pour le peuple palestinien, ce qui est quand même la ligne sur laquelle
les deux États,
la plupart des pays dans le monde se trouvent, il faut penser à la suite. Et donc, nous, parlementaires, nous représentons les populations. Nous ne sommes pas les États, nous ne sommes pas dans la guerre, nous représentons les populations. Et donc, nous sommes là pour essayer de travailler sur la suite. Et donc, trouver des liens, essayer de former à terme des parlementaires, des responsables qui vont pouvoir administrer cette autorité, cette souveraineté palestinienne, c'est bon et pour la souveraineté de la Palestine et pour la sécurité des populations israéliennes. Donc là, on travaille sur l'avenir.
Est-ce que
il faut se projeter dans l'avenir, justement.
Est-ce que vous projetez dans l'avenir, ça vous incite à être pour la reconnaissance d'un État palestinien par la France, comme l'ont fait d'autres pays ?
Oui, je pense que la France a cette position depuis très longtemps. Après, c'est comment cet État peut être administré. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité politique en Palestine pour administrer un État. Ça ne va pas être le Hamas qui n'existe plus, fort heureusement. Et même l'autorité palestinienne qui n'a pas démontré sa capacité.
Donc on ne reconnaît pas aujourd'hui.
On ne reconnaît pas aujourd'hui, il faut attendre le bon moment. Et surtout, il faudra trouver, à mon avis, et là on est dans des schémas de moyen terme, pour trouver une autorité qui administre cet État, ou en tout cas cette entité, pendant un moment, avant que les Palestiniens eux-mêmes aient cette capacité politique
de le souverain.
Faire. D'où l'intérêt d'un groupe d'amitié, de commencer à créer des liens. Et d'abord que ce groupe existe déjà au Sénat, donc ne polarisons pas là-dessus. La question, c'est le coup d'après. D'ailleurs, avec la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, nous allons travailler sur une conférence internationale sur le jour d'après, quelles sont les solutions. Et donc je pense que nous, parlementaires, on n'est pas au cœur de la guerre, on a des positions là-dessus, mais on doit préparer justement la construction et la capacité d'avoir des forces politiques qui permettent la sécurité et la paix dans la région.
Alors il y avait jusqu'alors un groupe d'études à vocation internationale, il était oui. Présidé par un centriste, un MoDem, oui. Richard oui. Ramos, qui est candidat d'ailleurs à prendre la tête du groupe d'amitié.
Tout
mais
fait légitimement.
Oui, mais le Front Populaire dit non, ça sera nous. C'est eux qui, par la majorité au bureau, ont créé ce groupe d'amitié, ils en veulent la présidence, ça sera lundi le vote.
Et lundi, il y aura une proposition, il y aura un vote, et on verra lundi comment cela se passe. Mais Richard Ramos a œuvré pour cela, et ça me paraît assez logique qu'il puisse continuer à présider ce groupe. Et je pense que c'est un groupe, s'il veut avoir toute sa force, il ne doit pas être présidé par une tendance politique qui va essayer de l'instrumentaliser.
Par exemple, LFI qui a été très...
Par exemple, LFI. Donc je pense qu'un groupe d'amitié France-Palestine dirigé par un député du groupe LFI n'aurait pas la même légitimité, la même capacité à travailler dans l'intérêt des uns et des autres que s'il est présidé par un centriste, par exemple.
Gabriel Attal, lui, a envoyé une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale en disant ce groupe d'amitié n'est pas valable.
Oui, peut-être, très bien, voilà, on traitera sa lettre. Mais je pense qu'il ne faut pas se situer dans le temps d'aujourd'hui. On est vraiment, quand on est parlementaire, on n'est pas dans les exécutifs, on est vraiment pour travailler sur la construction du temps d'après. Et on représente des populations. Et quand vous êtes représentant des populations, vous voyez bien que à Gaza, les populations souffrent, il faut donc les accompagner. Il faut construire, je le redis, une force politique à moyen terme, capable justement d'assurer la souveraineté de l'entité palestinienne. Et je le dis également, ça ne peut qu'avantager et renforcer la paix et la sécurité pour le peuple israélien.
La relation franco-israélienne ne va pas très bien. Il y a les tensions entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou. Il y a eu l'affaire du monastère Eléona avec la convocation de l'ambassadeur israélien en France. Il y a le centre culturel de Jérusalem-Est qui a été détruit. La France a protesté. Que faire pour l'améliorer ?
Je pense que le président français parle régulièrement au Premier ministre israélien et qu'il y a certains des épisodes que vous avez cités, mais il y a aussi une relation de fond. Je pense qu'il y a une relation de confiance, de fond, et que la France a toujours été aux côtés de l'État d'Israël et de ses populations, et que ce que je sais, moi, des derniers échanges entre le président de la République et le Premier ministre d'Israël était beaucoup plus
constructif
on va dire, et positif que ce qu'on peut dire à travers les événements qui ont été médiatisés. Ils existent, bien évidemment.
Qui existent, notamment parce que le président de la République a fait quelques sorties médiatiques. Livraison d'armes, l'ONU en 1947, il a sa part de responsabilité.
Oui, et après, il juge la situation telle qu'elle est. Je pense qu'on ne peut pas aussi rester insensible devant un nombre important d'attaques sur des civils, sur des écoles, etc. Quelles que soient les raisons, quels que soient les éléments que l'on a au plan militaire pour dire que le Hamas a caché un certain nombre de moyens militaires sous un hôpital. Voilà. Donc, il a pris ses positions, le président. Je pense qu'il y a eu, vous l'avez dit, des relations qui ont été un peu troublées ou tumultueuses. Aujourd'hui, les derniers contacts qu'ils ont pu avoir ont été de grandes constructions, en tout cas, et qui vont dans le même sens.
Est-ce que vous vous inquiétez des avancées de l'extrême droite israélienne quand on entend le ministre Smotrich dire en 2025 qu'il y aura annexion de la Judée-Samarie? Est-ce que ça vous inquiète?
Je pense que c'est très inquiétant parce qu'à un moment, il faut mettre un terme à cette guerre. Elle a duré longtemps et maintenant, le moment est de proposer les conditions pour qu'il y ait un cessez-le-feu.
La condition, c'est la libération des otages, la première.
Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut pousser. Je pense que l'administration Trump travaille, ou la pré-administration Trump travaille déjà sur ce sujet-là. Il faut pousser là-dessus, absolument. Je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est un cessez-le-feu extrêmement rapide. Et à partir de là, on ne peut pas penser qu'il faut encore continuer à indexer plus, je pense. Ou alors, on ne peut pas reconnaître cette solution. Et puis, il n'y a plus de deux États, il n'y a plus qu'un seul, quoi, en réalité. Je pense que ça, c'est pas favorable à une paix long terme et surtout à la sécurité du peuple israélien.
Autre front, autre péril, la situation en Ukraine. Est-ce qu'il faut craindre une guerre nucléaire, puisque Poutine élargit le décret d'usage des armes nucléaires?
Oui, je pense que c'est un élément qu'il faut toujours prendre en compte. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit une hypothèse qui soit favorable, en tout cas en général, mais aujourd'hui au président Poutine, parce que il n'aurait aucun intérêt, à mon avis, à lancer une offensive de cette nature avant que l'administration Trump n'arrive au pouvoir. Donc là, je pense qu'on est plutôt dans un rapport de force. Chacun essaie de tirer un avantage pendant le moment où Trump va siffler la fin de la guerre, parce que je pense que c'est ça qui va se passer à un moment.
Et il va y arriver, donc, sa paix en 24 heures.
Espérons, si, en 24 heures, ça veut dire plus maintenant qu'il était élu, mais s'il tient compte des éléments régionaux, locaux, le fait que l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre. S'il arrive en disant on sanctuarise aujourd'hui
ce qui a été pris,
je pense que la paix va exister, il y aura un cessez-le-feu, mais il ne sera pas de très long terme. Il faudrait les bases d'une paix de long terme. Donc il faut respecter, bien évidemment, l'intégrité du territoire et de la population ukrainienne.
L'intégrité vraiment totale, ou ce qui a été pris en 2014, la Crimée, l'Est du Donbass, tout ça, on le rend russe?
C'est partie de négociation, et justement, l'agitation dont on voit aujourd'hui le regain d'opérations militaires vient justement essayer de renforcer une position lorsqu'il faudra négocier réellement le cessez-le-feu. Et donc je pense que la nouvelle menace ou la nouvelle doctrine nucléaire russe vient justement dans cette logique-là d'essayer de marquer des avantages sur le terrain de la future négociation qui va avoir lieu pour le cessez-le-feu.
Est-ce qu'Olaf Scholz a eu raison d'appeler, de téléphoner à Vladimir Poutine ?
On va essayer de commenter ce qu'a fait le Premier ministre allemand, mais je pense que ce n'était pas forcément le moment. Si on parle à Poutine à ce moment-là, il faut des résultats. Voilà, aujourd'hui, il l'a fait certainement plus pour des considérations de politique intérieure qu'il ne l'a fait pour des raisons réellement d'avancer.
Il ne parlait pas au nom de l'Europe ?
Non, bien sûr.
Ni du coup franco-allemand.
Oui, mais si on parle à Poutine et qu'on n'a pas de résultats, qu'on sait à l'avance qu'il n'y a pas de résultats, c'est le moment de le faire. En tout cas, pas dans un moment où la guerre est extrêmement violente. Moi, j'étais en Ukraine il y a un mois avec le ministre des Affaires étrangères. Bon, on a envie que ça s'arrête très vite et de ne pas continuer à faire de l'agitation médiatique.
Parlons de la vie politique nationale. Est-ce qu'on va tout droit vers une motion de censure ? Vous qui voyez bien l'Assemblée,
vous devriez interroger les représentants du Rassemblement national, parce que c'est eux qui ont la clé. La motion de censure, oui. Après, est-ce qu'elle va être votée ? C'est à votre question, je pense.
Exactement. Si le RN vote, mais que les socialistes se retirent, ça ne passe pas.
Oui, moi, je pense que c'est de la responsabilité de personne d'aujourd'hui de faire tomber le gouvernement, parce que ce que fait Michel Barnier est extrêmement difficile. On a des comptes publics extrêmement dégradés, donc il y a des responsabilités fortes à avoir. En fait, personne ne veut être à la place de Michel Barnier. C'est beaucoup plus facile d'être sur les bancs de l'Assemblée en essayant de dire ce qui ne va pas que d'être réellement sur le terrain à essayer de régler les problèmes des Français.
Si Michel Barnier apparaît fragile aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a l'impression que le socle commun n'existe pas vraiment.
Non, le socle commun, c'est un concept. Mais moi, je suis fait de la politique depuis 2017 et qui était dans la société civile, on va dire, avant.
Journaliste, notamment.
Voilà, notamment. Mais il y a très, très longtemps maintenant. J'étais entrepreneur aussi pendant une bonne quinzaine d'années. Ce que je constate là, et je m'en désole vraiment, c'est que la plupart des responsables politiques, aujourd'hui, n'ont pas pris l'ampleur de la crise dans laquelle on est. Leur stratégie, leur déclaration, leur prise de position, le dépôt des amendements, leurs mesures proposées sont d'abord et avant tout dans l'intérêt soit de leur parti politique, de stratégie politicienne, soit dans leur intérêt personnel.
En vue de quoi ? De 2027 ?
Par exemple,
c'est les présidentiables.
Par exemple, pour ceux qui sont en course pour 2027. Je vois, on a parlé d'Olaf Scholz, moi je suis né, je suis élu à la frontière allemande. Les Allemands trouvent des coalitions, ils sont capables de compromis. En Allemagne, vous aviez juste avant la crise un ministre vert qui était ministre de l'Industrie. Vous aviez un ministre de l'Agriculture qui était un ministre écologiste. Donc quand vous avez une Sandrine Rousseau qui va voir le patron de Stellantis, ils se parlent, ils arrivent à trouver des points d'équilibre. En France, personne même ne fait 5 degrés en dehors de sa route. Et donc chacun est calé dans son sillage. Et je pense que ça, c'est extrêmement préjudiciable aujourd'hui à l'équilibre dans lequel on se trouve et qu'on a besoin aujourd'hui de dépasser son intérêt personnel pour prendre en compte l'intérêt du pays, surtout vu la situation dans laquelle on est. Et Michel Barnier joue ce rôle-là, et donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer en termes de motion de censure, mais la responsabilité aujourd'hui, c'est de donner à quelqu'un la capacité de régler les problèmes d'une urgence absolue.
Et est-ce que vous croyez que tout cela va se régler d'ici à la présidentielle, c'est-à-dire qu'il y aura une convergence de ce socle commun et un candidat unique ?
Non, moi je parle en général, je ne parle pas du socle commun, et je parle du RN en particulier. Le RN dit on ne votera pas de motion de censure de la gauche. Il y a des problèmes judiciaires dont on connaît effectivement l'ampleur depuis plusieurs années.
Et d'un seul coup,
et maintenant, ça y est, il bascule pour voter éventuellement la motion de censure. Donc on voit bien que c'est de la politique politicienne.
Mais il faudra un candidat unique si on veut éviter Mélenchon-Le Pen.
Et c'est ça que je critique. Je pense qu'au centre, soit les personnels politiques sont raisonnables et prennent le sens de leurs responsabilités, soit ils jouent leur intérêt personnel, et là, il n'y aura pas de candidat commun au centre. Est-ce que je...
Et ça sera la défaite.
Et ce sera certainement la défaite et le geste que vous...
Ouais, mon stylo en a volé.
C'était tout le monde.
Mon inquiétude.
C'est tout là. À tenir compte de la menace que vous venez de proférer à l'égard du centre.
Monsieur le président de la Commission des Affaires étrangères, merci et bonne journée.
Merci.
Merci beaucoup, Christophe Barbier, qui m'a agressé avec un stylo. Je suis outré. Christophe, on vous retrouve demain matin à 7h45 avec grand plaisir. Votre invité sera Patrick Haddad, maire de Sarcelles.
Sans eux.
Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.
Radio J, Marc Ezrati.
Radio J.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Limo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de Limo, des des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Immo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J.
Radio J.
Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Avec les audioprothésistes Unison, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui.
Et oui, jusqu'à 500 euros sur les appareillages auditifs les plus performants du marché.
Unison vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France.
UNI2SON.com.
Unison.com.
Unison.com.
La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire.
Radio J.